Vous écoutez État de Splendeur et bienvenue à cette émission du 11 septembre 2010. Donc, après une absence de près de 3 semaines, on revient en force avec du nouvel équipement de diffusion et puis on va ainsi vous amener une plus grande qualité d'émission. J'espère que l'émission d'aujourd'hui va vous plaire et contient plusieurs nouveaux sujets regroupés sous la bannière du vin. Et puis aussi les deux chroniques récurrentes qui reviennent à chaque émission. Il y a la chronique monastique. La chronique monastique, si jamais vous n'avez pas déjà entendu une chronique monastique, c'est qu'à chaque émission, on parle d'un nouveau monastère qu'on trouve dans le Québec. Et puis, c'est souvent des lieux d'habitation du territoire qui sont créateurs de culture et puis qui sont un peu des havres de paix. Donc, ça a commencé comme une brève exploration du monastère d'Oka, mais depuis, on s'est rendu compte qu'il y en avait bon nombre, et puis on en a fait une chronique récurrente. L'autre chronique récurrente, c'est la chronique dite fantomatique, et puis cette chronique-là explore un aspect disparu du patrimoine du Québec. Ça peut être un aspect culturel ou autre. Et donc, aujourd'hui, nous allons commencer par une chronique qui est à l'honneur du vin, en honneur de la fête des vendanges de l'Estrie. Et puis, c'est un bref survol de la notion de la culture du vin au Québec. On va parler un peu de son histoire et de sa géographie, l'histoire de la consommation du vin au Québec, où est-ce qu'elle s'en va, la culture du vin, et puis la production, quelques idées sur la réglementation, et puis les projections d'avenir sur la culture du vin au Québec. La chronique monastique, elle, va cette semaine explorer un monastère de renom pour cette installation de cette chronique-là. Et puis ensuite, la chronique fantomatique retourne aux origines, puisqu'à la dernière émission, on a exploré un membre mammifère qui était un fantôme. Et maintenant, on retourne aux sources de la chronique fantomatique avec un autre village fantôme. C'est ce qu'on va commencer à explorer. J'espère que vous allez apprécier l'émission. Et nous allons tout entamer ça après cette pièce de Tricot Machine.
On est parti en sauvage sans faire le ménage. Je nous reconnais pas. On est sorti par derrière. On a fermé les lumières, libéré le chat. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas défié les rites. Remis l'ordre à sa place parce que c'est tout ce qu'il mérite. On a sauté des clôtures, fait tomber des murs du bout de nos doigts. On a touché la nature, respiré l'air pur, retrouvé la foi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas chanté pour rien. Remis l'ordre à sa place, c'est tout ce dont il a besoin. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas défié les rites. Remis l'ordre à sa place parce que c'est tout ce qu'il mérite. Oh,
Rico Machine avec la pièce Défier les rites. Donc, le premier sujet de cette émission, c'est le vin. C'est un peu en honneur du fait que nous avons une fête en cette époque. C'est la fête des vendanges de l'Estrie. Alors, cette fête-là est en honneur des différents vignobles qui sont en Estrie et qui vont mettre ensemble les fruits de leur labeur. Et puis, donc on a décidé de faire un petit survol de la situation du vin au Québec. Si on retourne un peu en arrière, bon nombre de personnes qui habitent la ville la région de la capitale doivent savoir que lorsque Jacques Cartier est tombé sur l'île d'Orléans pour la première fois, il a remarqué qu'il y avait bon nombre de vignes. Et puis, ces vignes étaient indigènes et puis étaient en abondance. Donc, il a décidé d'appeler cette île l'île de Bacchus. L'île de Bacchus en honneur du dieu du vin, Bacchus. Et puis, aujourd'hui, cette île s'appelle l'île d'Orléans. C'était la source des premières expérimentations avec le vin au Québec, ou dans le territoire qui s'appelle aujourd'hui le Québec. Dans les années 1600, on a essayé de faire du vin avec ces vignes indigènes. Et puis, selon les documents d'époque, semblerait-il que ce vin était un tout petit peu trop âcre, puisque c'était des vignes qui donnaient très peu de vin, mais qui donnaient quand même un vin buvable, mais très très âcre, et puis semblerait-il qu'il tachait beaucoup. Évidemment, aujourd'hui, si on faisait ça, ce ne serait pas avec les mêmes techniques. Donc, on réussirait peut-être à faire un vin un peu plus respectable avec ça. Mais toujours est-il que dans les années 1700, on a essayé d'importer des vignes françaises qui sont évidemment de meilleure qualité pour faire du vin buvable pour les humains. Mais malheureusement, les hivers septentrionaux de cet endroit étaient trop rudes et puis les vignes n'ont pas survécu. Donc, on n'a pas vraiment pu faire du vin de manière significative avec cette méthode-là. On s'est donc rabattu en grosse partie sur l'importation du vin. Évidemment, vu qu'il fallait l'importer, le vin était un peu cher, donc les gens se sont rabattus sur d'autres boissons telles que la bière, qui était facile à produire, et le rhum qu'on importait d'Haïti, qui s'appelait Saint-Domingue à l'époque, qui était une colonie française. Donc au début du 18e siècle, il y a 2000 et 4000 tonneaux qui sont importés à chaque année. Et puis, sinon, c'était surtout la production de cidre qui était vraiment caractéristique de la Nouvelle-France. Il y avait les plus vieux vergers de toute l'Amérique du Nord. Et puis, le cidre était répandu parce que c'était un bon nombre des colons qui venaient de régions comme la Normandie ou la Bretagne où le cidre est roi. Et puis, donc, ils ont continué à en faire ici. Et puis, il était fort réputé, sauf que à la conquête, malheureusement, le cidre a reçu un certain coup et puis sa culture ne s'est pas transmise. Et puis, ben, évidemment, aujourd'hui, on parle du vin, non du cidre. Donc, disons, vers la fin du régime français, les Sulpiciens et les Jésuites, c'est surtout eux qui ont assuré la culture des vignes qu'il y avait en Nouvelle-France. Mais c'est surtout l'importation. La grosse partie du vin était très, très, très probablement faite par les habitants. Et puis, c'était des vins artisanaux quelque peu rustiques, j'imagine, mais quoique on peut pas vérifier, on n'a pas encore d'échantillons de cette époque-là, mais c'était des vins artisanaux faits avec des vignes indigènes, mais aussi avec des petits fruits. Donc, la tradition des vins de gadelle et puis des vins de groseille est définitivement là depuis très très longtemps. Mais ça a perduré, mais en clandestinité. C'est pour ça qu'il y aurait peut-être besoin de ressortir ça du placard et de le dépoussiérer un peu. Et puis si on prend comme, par exemple, l'année 1739, on a importé 775 166 bouteilles, ce qui représente, par rapport à la population de la colonie à l'époque, 32 litres par année par personne, ce qui est supérieur à la consommation de vin qu'il y a eu au Québec en 1992. Alors, il y avait quand même une consommation assez substantielle de vin, malgré que si on calcule au litre bu, il y avait probablement plus de bière, étant donné que c'était beaucoup plus facile de se procurer de la bière, puisque c'est une recette assez facile à faire, la bière. La conquête, malheureusement, a favorisé l'importation anglaise de spiritueux et aussi de bière du reste de l'Empire, mais aussi de production de bière, avec la saga Molson qui a débuté à cet instant. La viticulture et puis l'importation du vin est donc ralentie à cette époque-là, mais en 1864, il y a le gouvernement du Québec qui encourage le développement de la viticulture. Il fait des expérimentations avec certains cépages. Ils vont même aussi faire des hybrides avec des cépages américains, mais c'est pas assez soutenu. Ça reste à l'état expérimental, donc ça n'a pas été... disons que la culture du vin aurait pu débuter à cette époque au Québec, mais étant donné que l'encouragement gouvernemental n'a pas été soutenu et vivace, disons, ça s'est pas transmis ça non plus. Donc, il reste un savoir-faire clandestin local. Et puis, le vin, sa production est un peu tombée aux oubliettes. Disons que sa consommation aussi a fortement chuté suite à cette situation-là. Il a existé, c'est sûr, on pouvait faire du vin, mais il existait seulement des permis industriels, seulement du vin de style... qu'est-ce qui est comme Paul Masson, du vin, de la qualité du vin qu'on retrouve souvent en vignier. Donc, il n'y avait pas de quoi se dépasser à cette époque-là. C'est resté un peu comme ça jusqu'à la fin des années 70. Il n'y avait aucune possibilité de développement du terroir, puisqu'il y avait seulement des permis industriels de production de vin. Donc, permis industriel, ça veut dire que tout le monde met ses raisins en commun et puis on fait un gros vin sans particularité. Mais un petit vigneron qui voudrait, par rapport aux qualités de sa terre et puis de l'ensoleillement de son coin de culture, faire valoir les qualités de son raisin et en faire un vin qu'il reflète, mais c'était pas possible. C'est pour ça que ça prenait des pionniers. Et puis, ils sont arrivés un peu tardivement, mais en 1980 tout de même. Alors, en 1980, c'est un dénommé Christian Bartomeuf, qui est un pilier, mais là, vraiment un pilier pour la culture du vin au Québec, et aussi un pilier pour même le cidre de glace, mais ça viendra dans une autre émission. Monsieur Christian Bartomeuf, ainsi que Jacques Brault, qui faisait déjà de la culture de vigne dans le coin de Donham, ont été chercher plusieurs ceps de vignes pour enfin faire un vignoble qui s'appelle aujourd'hui le vignoble des Côtes d'Ardoise. Et ça, c'est à Donham, en Montérégie, la région qui produit de loin le plus de vin du Québec. Et puis, c'est maintenant aujourd'hui en 1984, ça a été vendu à un certain Jacques Papillon, qui est encore propriétaire du vignoble des Côtes d'Ardoise, mais c'est le vignoble le plus ancien au Québec. Donc, c'est un vignoble de 30 ans. Ils ont commencé illégalement, mais c'était vraiment un vin du maquis, là. Puis éventuellement, grâce notamment à l'éditrice de la revue La Barrique, ils ont fait leur pression sur le gouvernement, et puis finalement, ils ont réussi à créer le premier permis de production de vin artisanal au Québec. Ça a pris bon nombre d'efforts, mais finalement, ça a été fait. Un deuxième vignoble suit de près le vignoble des Côtes d'Ardoise comme étant le plus ancien encore en opération au Québec. C'est le vignoble de l'Orpailleur, lui aussi qui est en Montérégie. Lui a été parti en 1982 par Hervé Durand et Charles-Henri de Caussergue. Ces deux vignerons français ont créé un des premiers vignobles du Québec, qui est un peu plus récent que celui du vignoble des Côtes d'Ardoise, mais qui a gagné bon nombre de prix et qui est vraiment un des vignobles les plus qui produit les vins les plus respectables, surtout au niveau du vin blanc au Québec. Donc, c'est une très respectable production aussi, celle du vignoble de l'Orpailleur. La consommation du vin au Québec a vraiment évolué depuis quelques années. on semble se démarquer un peu du reste de l'Amérique du Nord du fait que on consomme beaucoup de vin. C'est sûr que la bière est toujours en tête, mais dans ces dernières années, le vin a vraiment augmenté de manière marquée, surtout du vin rouge. Disons que si on prenait 1992, la consommation de vin avait déjà commencé à augmenter. Au début des années 80, c'était beaucoup plus bas que ça. Si on vérifie de 1992 à aujourd'hui, il y a entre 50 et 60 % d'augmentation depuis cette époque. En 2001, on consommait déjà 95 millions de litres par année au Québec. 95 millions. Et en 2010, on en consomme 142 millions. Ce qui fait que c'est une augmentation de près de 50 % en moins de 10 ans, en 9 ans seulement. 2001, c'était il n'y a pas si longtemps. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle, ça. C'est pour la consommation du vin. Et le fait que le vin recommence à être apprécié au palais des consommateurs dans toutes les régions du Québec. Et puis, c'est pour l'appréciation du vin, mais pour la production du vin, par contre, il a fallu attendre un certain temps avant qu'il y ait un boom. Il y a eu un boom, circa 1999. 1999, c'est là que, pour la première fois, les marchés publics sont autorisés les vignerons sont autorisés de vendre leur vin dans des marchés publics. Parce qu'auparavant, la réglementation était quelque peu contraignante. Disons qu'on est un producteur de vin, ou même de cidre, par exemple, ou quoi que ce soit d'autre que de la bière. Si on a un permis artisanal, on ne peut pas vendre notre bière dans des dépanneurs ou dans dans différents commerces. Malheureusement, on peut seulement le vendre chez soi. C'est-à-dire que si on fabrique un vin à la tuque, on ne peut le vendre qu'à la tuque, ce qui fait que ça favorise pas vraiment la diffusion du vin et puis sa mise en valeur, malheureusement, sur les étalages. Donc, pour la première fois, à cette époque, on autorise aux producteurs de vins artisanaux de vendre leur vin dans des marchés publics, ce qui rend le vin un peu plus accessible pour une fois. Ça faisait assez longtemps que c'était pas le cas. Donc, il y a bon nombre de kiosques de petits vignerons qui apparaissent au marché Jean Talon, au marché Maisonneuve. C'est à cette époque-là aussi qu'on voit le boom de cidre de glace. Les vins, les cidres, ils commencent à avoir une certaine visibilité accrue. Et puis, c'est en même temps qu'il y a un boom pour la notion du biologique et du terroir, etc. Donc, à cette époque-là, on voit apparaître la Maison des vins et boissons artisanales du Québec, qui est une initiative de Suzanne Bergeron et Tony Drouin, qui ont parti un kiosque qui regroupait différents alcools qui n'étaient pas disponibles autrement. Donc, pour la première fois, on peut enfin goûter à certains vins de vendange tardive ou certains vins blancs fort bien réalisés dont on n'aurait jamais pu goûter auparavant. Et puis, il y a un kiosque de la Maison des vins et boissons artisanales du Québec qui ouvre au marché Maisonneuve. Il y en a une au marché Atwater, il y en a une au marché Jean Talon. Et puis, éventuellement, c'est devenu le marché des saveurs du Québec tel qu'on le connaît au marché Jean Talon. Malheureusement, toute bonne chose a une fin. Et puis, en 2004, autour de Noël, ça c'est le paroxysme de la disponibilité de nos vins et boissons artisanales dans les marchés publics. Il y a une grève de la SAQ, et puis ça fait de sorte que les vignerons québécois et les producteurs d'alcool de petits fruits et de toutes les vins et boissons artisanales alcooliques du Québec ont un gros boom. À cause du fait que les gens ne vont pas à la SAQ à cause de la grève et puis ils vont se rabattre sur des boissons artisanales vendues dans les marchés publics. Donc, en 2005, un chapiteau de plomb arrive sur ce marché et puis la permission pour les producteurs de boissons artisanales de vendre leur production dans des marchés publics est retirée. Donc, c'est retour à la case départ. Et puis, les producteurs artisanaux sont obligés de vendre chez eux et seulement chez eux. C'est impossible de faire quoi que ce soit d'autre. Ils peuvent même pas... à part les restaurants. Les restaurants restent la seule autre possibilité. Mais si quelqu'un veut s'en acheter une bouteille pour consommer avec ses proches, ça n'est pas possible à moins de se présenter sur place, ce qui est logistiquement pas très facile pour le consommateur. Alors, malheureusement, ils peuvent vendre soit chez soi ou à la SAQ. Et c'est là qu'on voit apparaître dans les SAQ les sections qui sont dévouées au terroir québécois. Bon, c'est vrai qu'il y a une diversité accrue de ces produits à partir de cet instant-là dans les SAQ. Mais malheureusement, la SAQ a des normes assez sévères en matière de perte. Et donc, ils ont des normes qualitatives assez élevées qui font de sorte qu'on est obligé de contrôler la boisson de manière à dénaturer le produit et aussi parfois à obliger une production accrue. Ce qui fait de sorte que les petits producteurs n'ont pas tout le temps les moyens de se rendre à la SAQ. Puisqu'il faut qu'ils se plient à certaines exigences qui sont fort coûteuses, malheureusement. Donc, mis à part cette disponibilité accrue à la SAQ de certaines boissons artisanales québécoises, c'est quand même retour à la case départ. Et puis, il y a seulement deux endroits principaux qui ont encore le droit de vendre des boissons artisanales dans les marchés publics au Québec aujourd'hui, c'est les deux endroits qui ont eu des droits acquis, puisqu'ils étaient déjà là en 2005 à vendre des boissons et des vins artisanaux du Québec. Ils ont le droit de subsister, soit le marché des saveurs du Québec au marché Jean Talon, et puis il y a aussi le comptoir des terroirs au marché du Vieux-Port à Québec. Ça, c'est au moins des droits acquis qui font de sorte qu'on est quand même capable aujourd'hui d'aller au marché public, à Montréal et à Québec du moins, d'aller chercher une bonne variété de vins et de boissons artisanales au Québec. Mais par contre, la situation doit évoluer. On va faire un petit break musical pour couper ça et on se retrouve tout après cette pièce qui s'appelle « Ready for the Floor ».
Do it, 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 do it now. Say it, say it, say it, say it, say it, say it, say it now. We'll be right back.
c'était Ready for the Floor, une pièce de Hot Chip. Alors, juste avant la pièce musicale, on parlait du fait que aujourd'hui c'est un peu retour à la case départ, puisque seulement une petite minorité d'établissements ont droit de vendre leur production dans les marchés publics. En fait, c'est une petite minorité qui ont le droit de tenir boutique dans les marchés publics. C'est un peu... l'interdiction de vendre dans les marchés publics s'est un peu fait retirer. Mais déjà, disons que les producteurs individuellement ont maintenant droit de retourner vendre dans les marchés publics. Mais il y a quand même eu un effet d'inhibition du marché des vins au Québec, pour ceux qui sont produits au Québec, artisanalement en tout cas. Mais il y a quand même des bonnes nouvelles, puisqu'il y a beaucoup de progrès qui se font, et j'ose espérer que le gouvernement va faire évoluer la réglementation pour favoriser l'essor de la production du vin au Québec et le fait que ça soit connu du public, non seulement extérieur avec l'exportation, mais on doit commencer par le marché intérieur. Donc, bien que cette situation ne permettait pas le plein essor du vin au Québec, quand même, la vapeur semble avoir été renversée. Et puis, le climat, par exemple, du Québec se prête de plus en plus à la culture du vin. Bon, on va dire que c'est le changement climatique, mais peu importe que ce soit le changement climatique ou pour d'autres raisons, il se trouve que la culture du vin est de plus en plus... les conditions pour la culture du vin sont quand même de plus en plus favorables. Il y a certains travaux de moines qui ont été faits par des gens qui sont pas des moines, qui sont complètement laïcs. En 1979, il y a l'Association des viticulteurs du Québec qui a été fondée par un certain M. Vandal. Et c'est ce même M. Vandal, en compagnie de M. Cliche, qui vont développer le premier cépage québécois. Alors, c'est à l'Université Laval, au fil de plusieurs travaux de sélection et puis d'hybridation, qu'on va réussir à faire ce cépage-là qui est vraiment fait pour la culture du vin dans la vallée du Saint-Laurent. Il se prête à merveille à la culture dans le coin de l'île d'Orléans. Et puis, ce cépage-là qui est fait pour la vallée du Saint-Laurent, on le retrouve à bon nombre de places. Mais notamment au vignoble de Sainte-Pétronille, qui est à Sainte-Pétronille de l'île d'Orléans. Et puis, étant donné que ça fait maintenant plus d'une vingtaine d'années que ces vignes-là, ou bien plus qu'une vingtaine d'années, que ces vignes-là sont en utilisation, on peut dire que le potentiel devient ô combien plus délicieux, puisque les vignes, plus que les vignes deviennent matures, il ne faut pas que ce soit excessivement des vieilles vignes, mais disons que des jeunes vignes, pour les quatre premières années, on ne peut pas récolter le fruit de ces vignes. Il faut attendre que les pieds de vigne acquérissent, la vigne en tant que telle acquérisse une certaine maturité. Parce que avec les années, les vignes vont devenir de plus en plus tanniques. Les tanins, bon nombre de personnes savent ce que c'est un certain principe qui donne un peu une astringence. C'est ce qui fait qu'un vin est sec. Et puis, il y a bon nombre de propriétés qui font de sorte que c'est des vins de plus en plus nobles, c'est-à-dire des vins qui peuvent de plus en plus vieillir. Au point où on en est, on ne fait pas encore des vins qui sont avec un potentiel de garde. On fait des vins qui peuvent se garder quelques années, mais qui n'ont pas un potentiel de bonification. Il ne va pas se bonifier, comme par exemple le cidre de glace, qui, jusqu'à aujourd'hui, est une des rares productions qu'on fait qui ont vraiment un potentiel de bonification de 20 ans, là, facilement. Donc, c'est pas encore la réalité que de faire des vins avec un long potentiel de garde. Mais par contre, on fait quand même des vendanges tardives et des vins de glace même, qui, eux, peuvent se garder longtemps et qui ont des potentiels de bonification. Mais quand on pense à un bon vin rouge typique, comme un Cahors, là, qui pourrait se garder pour des années, c'est pas encore à jour. Mais il y a bon nombre de vignobles qui travaillent, et puis les vignes deviennent de plus en plus matures, et ça fait des vins de plus en plus peaufinés. Et puis j'ose croire aussi que les œnologues vont travailler leur processus de vinification et vont donner des vins de plus en plus raffinés. C'est déjà une réalité. On nommera pas des vins ou des vignobles précis puisque la situation est quand même assez premier balbutiement et on ne veut pas nuire à un vignoble ou à un autre et favoriser un autre à son détriment. Donc, au Québec, on cultive le vin, la vigne, principalement en Montérégie. En deuxième, c'est en Estrie. Il y en a beaucoup dans la région de la capitale. Il y en a même en Gaspésie. Il y a d'ailleurs même un producteur de vin italien là-bas qui s'est installé et qui a un très beau domaine, qui compte faire son propre vin. Il y a Chaudière-Appalaches aussi. Et il y a une des régions les plus nordiques qui se prête à merveille à la culture du vin, c'est le Témiscamingue. Le Témiscamingue, juste en dessous de l'Abitibi, qui est pourtant très au nord, bénéficie d'un microclimat qui fait de sorte que c'est possible de... En fait, il y a déjà un vin qui se fait à cet endroit, mais il y a aussi un autre vignoble. Il y a plusieurs vignobles qui font des expérimentations pour faire du vin et puis c'est très, très, très prometteur. Donc, surveillez cette région-là. Les vins du Témiscamingue pourraient même bénéficier d'une reconnaissance de leur terroir respectif. Là. Alors, pour l'instant, c'est surtout du vin blanc qu'on fait. Mais pour le vin rouge, on commence à voir certains candidats qui sont très respectables. Pour faire un vin rouge, non pas spectaculaire, mémorable, mais un vin rouge qui est très respectable et très buvable et qu'on peut faire, qui mérite le nom de, non pas vin de cuisson, mais c'est des vins de table respectables. Et donc, il y a un bon candidat qui, de manière surprenante, est juste au nord de Montréal, dans un territoire qui est légalement dans Laval. on n'aurait pas, je ne le nommerai pas précisément, mais ce vignoble-là fait un vin qui est un vin rouge qui est très respectable, qui va se peaufiner encore pendant quelques années. Et il y a aussi quelques très bons candidats en Estrie. Alors ça, c'est un dossier qui reste à suivre, évidemment, qu'on va continuer à explorer avec les prochaines émissions de Radio EDS, mais aussi les émissions vidéo qui restent à venir, qui restent à être initiées à partir de cet hiver. Donc, on n'a pas encore notre Sidi Ibrahim. Hein? Le Sidi Ibrahim, qui est le vin algérien le plus réputé, qui fait la fierté des Algériens à travers le monde. Quand le Sidi Ibrahim y arrive à la SAQ, il y a une file et toute la communauté algérienne est là pour avoir sa bouteille et puis ça reste là pendant à peu près 2-3 jours et puis pendant tout le reste de l'année, c'est impossible de trouver du Sidi Ibrahim au Québec, malheureusement. Alors ça, c'est vraiment un vin phare qui a fait de sorte que les vins algériens peuvent afficher une certaine fierté. On n'a pas notre Sidi Ibrahim pour l'instant, du moins dans les vins rouges. On l'a dans le cidre. Mais dans les vins rouges, ça reste à venir. Et j'ai très confiance qu'il ne reste plus tant d'années à attendre avant que ce vin se fasse enfin découvrir ou créer. Donc, il y a la grande fête des vendanges, par contre, qui est un événement assez important. Puis c'est la plus grande fête dédiée au vin au Québec. Et puis ça fait de sorte que le public peut avoir accès à différents vins artisanaux au Québec et les connaître et les encourager aussi, puisqu'il faut que les gens les achètent pour que les vignobles puissent continuer. Et puis, pour que les vignobles aussi puissent avoir un certain retour de l'appréciation du public pour qu'ils puissent peaufiner leur vin en fonction des besoins. Des besoins et puis des suggestions et puis des souhaits des dégustateurs qui viennent à cette fête des vendanges qui est à Magog chaque année, les deux premières fins de semaine de septembre. Et puis c'est maintenant une bonne tradition et puis ça commence à chaque année avec le bal des vendanges. C'est un bal de style médiéval renaissance. Et je vous recommande fortement de pouvoir y aller si jamais vous êtes libre au début du mois de septembre. C'est à Magog, en plein centre-ville de Magog, sur les bords du lac Memphrey-Magog. Et puis, c'est fort agréable. Les perspectives futures dans la vallée du Saint-Laurent, c'est sûr que c'est... les perspectives futures à espérer, c'est qu'il y ait beaucoup de vignobles qui fassent des vins de plus en plus respectables. Mais il y a des besoins ailleurs qu'en viticulture elle-même et qu'en vinification. En fait, il y a deux métiers qui seraient en demande Le premier, ce serait des tonneliers, puisque ça coûte quand même assez cher de faire venir des tonneaux de chêne américains ou des tonneaux de chêne français pour faire vieillir nos vins en fût de chêne. Ça favorise malheureusement l'utilisation de méthodes modernes comme l'oxygénation ou comme l'utilisation de fûts en stainless avec des copeaux de bois dedans là, pour donner des notes un peu boisées. Mais ça, c'est malheureusement des méthodes rapides qui sont bonnes pour faire une grosse production. Ça peut peut-être favoriser le côté économique, mais ça serait très bien que des tonneliers se manifestent. Il en restait quelques-uns jusqu'à un certain temps au Québec, mais ce serait un métier qui pourrait facilement renaître parce qu'il y a bon nombre de maisons qui produisent du vin qui pourraient très, très facilement se porter acquéreur de tonneaux qui sont faits au Québec. Pas nécessairement avec du chêne, il existe d'autres arbres qui ont des propriétés tanniques, qui pourraient faire des tonneaux. Ce serait des tonneaux à la québécoise. Mais ça nécessite beaucoup d'expérimentation, mais ça, ce serait un marché qui serait définitivement en demande avec le temps, si quelqu'un avait les reins assez solides pour se lancer là-dedans de manière soutenue. L'autre nécessité, ce serait pour des hybrideurs. Puisque on a le Vendalclish et on a certains autres cépages aussi qui sont adaptés au climat québécois, mais la plupart des hybrideurs sont aux États-Unis malheureusement, ou dans le Niagara ou dans la vallée d'Okanagan. Il n'y en a pas vraiment au Québec qui se spécialisent dans l'hybridation, et puis ce serait fort important de pouvoir créer des nouveaux cépages qui sont adaptés non seulement à notre latitude, mais aussi à chaque terroir qui a des particularités différentes. Cultiver un vin en Gaspésie, c'est pas comme cultiver un vin en Montérégie. Alors, ce serait bien de pouvoir hybrider, de croiser des cépages européens avec notre vigne indigène, par exemple, pour faire des cépages vraiment québécois qui soutiennent très bien l'hiver. Il y a sûrement plein de possibilités de ce côté-là. Donc, des hybrideurs et des tonneliers sont demandés pour la culture du vin au Québec dans les prochaines années. Et puis aussi, l'autre nécessité, ce serait une certaine évolution de la loi de la SAQ et que les permis artisanaux soient plus faciles à avoir, bien, c'est-à-dire qui facilite la vente des produits de permis artisanaux pour que ça soit plus facilement accessible par le public intérieur du Québec et ensuite à l'extérieur, c'est la deuxième partie, mais il faut que le marché intérieur soit développé en premier, à mon avis. Évidemment, c'est mon avis personnel et puis ça n'engage personne. Et je crois quand même que si la facilité pour les petits vignerons et s'il y a une facilité accrue, ben ça va faire de sorte qu'il va avoir toujours plus de travail dans le domaine et puis toujours plus de qualité authentique et expérimentale qui va être faite pour le bien du vin du Québec, en fait, pour que ça puisse bien se positionner dans le marché du vin international qui est maintenant de plus en plus international. Là, c'est... Alors, je souhaite, sachant qu'il y a beaucoup de pain encore sur la planche, je vois aussi qu'il y a beaucoup de chemin qui a été fait déjà. Alors, je pense que je peux me permettre de souhaiter longue vie et de dire bravo à tous les acteurs qui ont fait de sorte qu'on puisse maintenant dire qu'on fait du vin respectable au Québec. Alors, longue vie à notre vin, nos vignobles, et puis à tous les artisans qui produisent ce merveilleux élixir.
Yeah.
Vous venez d'entendre le chœur des moines bénédictins de l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Et c'est sous la direction de Don André Saint-Cyr. Donc, vous venez de deviner que le sujet de la chronique monastique parlait du monastère le plus connu au Québec actuellement. C'est l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. En fait, l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, c'est la plus petite municipalité au Québec, le plus petit code régional aussi. Et puis, celui qui dirige le monastère est aussi le maire du village. Saint-Benoît-du-Lac. Tout a été commencé un peu, il faut remonter en France jusqu'à un certain Don Prosper Guéranger. Celui-là est celui qui a fait renaître la tradition bénédictine, puisque toute la tradition monastique de bénédictine découle évidemment de Saint-Benoît. Là, je ne pourrais pas vraiment faire un laïus sur qui était Saint-Benoît et tout ça, mais c'est une tradition qui est tombée aux oubliettes. Et puis, Don Prosper Guéranger, en 1833, fait renaître cette tradition-là. Il a fait restaurer en 1853 l'abbaye de Saint-Vendril en Normandie. Et puis c'est cette abbaye-là qui va donner naissance à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. C'est à partir d'une initiative qui partait de cette abbaye-là qui va se faire une transmission qui va donner naissance à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, un peu comme un mycélium de champignons qui donne un nouveau champignon à une zone très éloignée du premier. C'est en 1912 que l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac a été fondée. C'était au cœur de l'Estrie. C'était au début une simple ferme. Ça, c'est parce qu'en 1901, il y a une loi civile française qui est anticléricale qui a forcé les bénédictins à l'exil. Donc, ils sont un peu réfugiés en Belgique pour un certain temps. Et puis ensuite, ils ont décidé de faire un tour au Québec, en Estrie, avec l'approbation de l'évêque de Sherbrooke. C'est Don Paul Vanier qui est parti ici, qui a initié toute l'expérience. Et puis, c'est en 1912 qu'il a décidé d'acheter une fermette. Et puis, c'est 5 moines qui ont parti ça. Il y avait quelques postulants. Il y a un moine canadien-français qui était le seul non-français qui était le premier postulant à être entré dans ce monastère de manière permanente. Ils ont été... tout a été formé dans un certain rythme et se poursuivait avant la Première Guerre mondiale. Et puis, malheureusement, en 1914, il y a le frère Don Paul Vanier qui se noie dans le lac Memphremagog, qui est aux abords de l'abbaye. C'était une très sinistre époque. Et puis, il y avait les débuts de la Première Guerre mondiale. Les moyens étaient quelque peu restreints. L'abbaye mère, qui est à Saint-Vendril, décide de terminer le tout. Mais il y a deux religieux quand même qui partent de Saint-Benoît-du-Lac qui vont plaider la cause de Saint-Benoît-du-Lac à l'abbaye mère. Et puis, suite à bon nombre de tergiversations, ils obtiennent la possibilité de poursuivre le monastère de Saint-Benoît-du-Lac. Donc, éventuellement, ils vont même recevoir une autonomie. C'est fort favorable. Et puis, il faut souligner que c'est surtout le frère Don Léonce Grenier qui est celui qui a, sous lequel l'abbaye de Saint-Benoît a vraiment pris un gros essor. C'est en 1941 qu'il y a eu le bâtiment qu'on connaît actuellement qui a été béni. Toutes les constructions ont été terminées, toutes ou presque. En 1922, en 1912, il y avait la petite ferme. En 1922, ils ont construit une nouvelle annexe à la ferme. Et puis, en 1935, ils ont quand même réussi à construire un bon bâtiment avec plusieurs étages, 3 étages, et puis des dortoirs pour les nombreux postulants qui venaient à cette abbaye-là. Donc, la tradition monastique a vraiment pris son essor avec le nombre de de moines qui se sont présentés. Et puis, il y avait un moulin assis, et puis il y avait quand même une bonne activité à cet endroit. En 1952, c'est vraiment là que le monastère de Saint-Benoît-du-Lac obtient sa sanctification. Ben, pas sa sanctification, je connais pas le terme exact, mais c'est là que le monastère devient une abbaye. Et puis, à cet instant-là, ils vont faire des plans pour finaliser les derniers détails qui donnent la prestance actuelle à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Le clocher va être préparé, puis la crypte aussi, par un moine architecte même. Donc, même les plans de l'abbaye ont été faits par un travail monacal. Donc, la nouvelle église, c'est qu'avant, l'église était dans le sous-sol. Et puis, ils avaient des célébrations à cet endroit qui était fort agréable, mais ils avaient besoin de faire une église digne d'une abbaye. Et donc, c'est en 1994 qu'ils ont finalisé la nouvelle église qu'on connaît aujourd'hui. C'est une église assez moderne, mais pour y avoir été récemment, j'ai vu que c'est pas aussi détaillé que l'ancienne église qui était dans le sous-sol ou que l'ancienne chapelle qui était dans le sous-sol. Mais c'est un style dépouillé, mais qui va quand même bien vieillir. C'est de la grosse pierre, et puis la façon que la lumière entre dans l'abbaye, c'est quand même très agréable. Et puis ça fait depuis 1994 que c'est là. Saint-Benoît-du-Lac, c'est le monastère le plus connu au Québec. C'est sûrement à cause de leur production. Et puis une des bonnes raisons pour laquelle on parle de différents monastères au Québec, c'est parce qu'ils font un travail de moine à faire des productions agroalimentaires qui sont vraiment représentatives de leur région. Ils habitent le terroir à leur manière, et puis ça se voit à travers les cidres qu'ils font, à travers leur érablière et puis leur fromagerie. Alors pour commencer avec les cidres qu'ils font, ils font un cidre craquant et sec qui est vraiment typique de Saint-Benoît-du-Lac. Ça a toujours été lui qui fait. Je ne sais pas s'ils ont peaufiné leur recette au fil des années, mais c'est assez caractéristique des cidres québécois. Des cidres de ce type-là, de la méthode champenoise. Il s'appelle simplement le cidre de Saint-Benoît, mais il y a une version qui est plus craquante, une version qui est forte, et une version qui est un cidre léger. Il y a aussi un kir qui existe. Ils ont aussi une érablière, ça c'est moins connu, avec tous les produits qu'on trouve dans une érablière digne de ce nom. Et surtout, c'est vraiment leur fromagerie qui ont fait leur réputation à travers le monde. Aujourd'hui, ils ont une douzaine de fromages différents. Là, c'est toujours sous l'égide de l'abbaye de Saint-Benoît. Ils ont des fromages qui s'appellent comme le frère Jacques. Ils ont le Mont-Saint-Benoît, mais qui sont tous des fromages conventionnels, mais ils sont surtout, et je ne sais pas jusqu'à quel point mettre l'accent là-dessus, mais ils sont surtout connus pour leur fromage bleu. C'est indiscutable, le fromage de l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, c'est l'ermite et le bénédictin, puis ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Je le dis, c'est même quelque chose de personnel, puisque c'est une tradition d'enfance. Mon père m'amenait le lundi, puisque le dimanche était fermé, là, il m'amenait le lundi pour acheter du fromage bleu. Et même étant tout petit, j'adorais le fromage bleu, et puis je m'y suis habitué. Et c'est le premier fromage qu'ils ont commencé à créer. Et puis c'est le fromage qui représente le plus, puisque c'est lui qui va avoir un goût qui se démarque le plus des autres fromages qu'on trouve sur le marché. Donc, si jamais vous allez là-bas et que vous êtes ouvert au fromage bleu, puisque c'est quand même pas la situation pour tout le monde, je comprends, vous descendez en bas de la boutique Saint-Grégoire, qui est le nom de il paraît que c'est un des seuls moines qui est devenu pape. J'ai appris ça la dernière fois que j'ai été là. Et puis, dans cette boutique-là, c'est pas comme c'était autrefois. Autrefois, il y avait un comptoir assez rustique avec un moine qui servait du fromage. Aujourd'hui, c'est une boutique là, avec une caissière et puis de la musique qui joue. Et puis, on peut même se procurer de la musique de chant grégorien tel que vous venez de l'entendre. Et puis, vous pouvez vous acheter du fromage. Donc, si vous êtes ouvert au fromage bleu, sachez que l'ermite, c'est leur premier fromage. C'est un fromage bleu qui est assez jeune, qui n'est pas trop persillé. Et puis, le bénédictin, à mon avis, c'est le plus intéressant parce que c'est le même fromage, c'est l'ermite, mais qui est gardé plus longtemps dans leur cave d'affinage. Il est affiné un peu plus longtemps, autour de 6 mois, si je ne m'abuse. Donc, ce monastère-là est définitivement là pour rester. Et puis, si vous voulez pouvoir goûter à leur production, c'est sûr qu'ils ont bon nombre de productions, comme des tartes et puis des croustades. Mais si vous êtes ouvert au bleu, essayez le bénédictin. Mais si jamais vous n'êtes pas ouvert au bleu, ça ne sert à rien d'acheter un morceau de bleu et puis ça risque de faire l'effet contraire. Alors, vous pouvez acheter des fromages plus doux qu'ils offrent aussi, là, qui sont disponibles. Mais ce qui fait la marque dans la culture québécoise de l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, c'est vraiment le fromage, le bénédictin, à mon avis, pour en avoir mangé à travers les années, pour en avoir vendu à travers les années. De grâce, allez vérifier le bénédictin. Et puis aussi, à noter que c'est l'hôtellerie de Saint-Benoît-du-Lac qui fait sa réputation. C'est un des rares endroits où on peut aller et avoir la paix totale. C'est pas un endroit de villégiature qui va essayer de vous vendre quelque chose. C'est un endroit où, même si c'est religieux, c'est un endroit où il y a une certaine neutralité. C'est les arbres, c'est les petites promenades. Et puis, c'est le silence et des repas assez frugaux. Si jamais vous êtes intéressé à aller visiter ou même faire une retraite à Saint-Benoît-du-Lac, c'est possible. On demande à peu près 50$ par nuit. Évidemment, il faut réserver assez longtemps à l'avance. Je dirais, ces temps-ci, à peu près un mois d'attente là, pour les retraites, puisque c'est assez populaire. On serait surpris, mais c'est quand même assez couru. C'est 50$ par nuit, mais ça comprend 3 repas. Et il y a aussi une hôtellerie des dames, donc les dames peuvent se présenter aussi. Et pour les rejoindre, vous avez juste à composer le 819-843-4080. Donc, je tenais quand même à souligner ce monastère-là, qui est vraiment le monastère le plus réputé au Québec et qui devrait sans doute poursuivre son existence pendant de longues années. Donc, la semaine prochaine, on va visiter un autre monastère, un peu moins connu, mais différent. Et pour terminer, je voudrais simplement souhaiter la longue vie à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Maintenant, on va aller tranquillement se transporter du côté de la chronique fantomatique. Après cette pause musicale. Transportons donc dans la zone de la chronique fantomatique. La chronique fantomatique. Aujourd'hui, nous explorons un village fantôme dans la haute côte nord, très reculée. Vous devez avoir des bons phares si vous vous rendez là la nuit, puisqu'il n'y a aucun éclairage civilisé. Cette ville a été construite il y a plus de ou près de 60 ans maintenant. Il s'agit d'un endroit assez particulier. Si vous allez en Côte-Nord, si vous n'y êtes pas déjà évidemment, vous prenez le traversier à Tadoussac, vous continuez, et puis vous vous arrêtez à Forestville, où vous prenez la fameuse route 385, une route qui se rend, pour ainsi dire, nulle part. Cette route-là se rend dans la ville qu'on explore aujourd'hui. C'est la ville de Labriville. Ce petit village a été créé à cause du gouvernement. En 1951, il y avait un besoin accru pour l'électricité puisque les années 50 commençaient à pointer du nez. Et puis, on a donc décidé de construire deux centrales électriques au nord de Forestville. Et en 1951, on a vendu la concession à Hydro-Québec aux grandes dames de la Shawinigan Power Company, qui était encore une. Il y avait encore des compagnies privées d'exploitation électrique à cette époque-là. Et puis, on a commencé par construire Bercy-Miss 1. On a donc décidé de construire une ville à cet endroit-là, qui est quand même assez loin dans le nord. Là, c'est comparable à Gagnon et compagnie. C'est vraiment en plein milieu de nulle part. Mais étant donné que c'était tellement loin et que les employés qui allaient là restaient là pendant des durées très, 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 très longues, voire toute leur carrière, il fallait construire une ville. Au début, c'est une ville avec des quartiers pour les hommes et des quartiers pour les femmes. Mais la construction a débuté en 1953. Bon, le premier locataire a loué son logement le 16 novembre 1953. La construction s'est poursuivie encore pour quelques temps après. Mais la ville, une fois finie, on est en pleine construction de Bercy-Miss. Et puis, elle avait un hôpital, elle avait une école avec huit différentes classes. Il y avait une église, il y avait même un centre d'achat. Il y avait des courts de tennis, une aréna, c'est-à-dire une patinoire. Il y avait une auberge aussi, puis des cafétérias, des entrepôts. Et puis, des familles sont venues s'y installer. Et puis, ça a quand même duré pendant bon nombre d'années. Il y avait quand même une bonne qualité de vie, selon ceux qui y ont habité, selon leur dire. Et puis, à peu près en 1960, les centrales ont été terminées, les deux centrales, Bercy-Miss 1 et Bercy-Miss 2. Donc, la ville de Labri s'est cherchée une nouvelle vocation. Et puis, elle a cherché à mettre en valeur son potentiel minier et son potentiel électrique, vu qu'il y a de l'électricité juste à côté, c'est de l'électricité pas chère. Et puis, ils ont pu continuer à survivre jusqu'aux années 70, là, mais tant qu'à un cas, tant bien que mal. Là, la vie devenait de plus en plus drabe. La situation était encore pire que celle qu'on a vue à Murdochville. Il n'y avait aucune activité économique, ou presque. C'est donc dire que les esprits devaient être assez bas à cette époque. Et puis... on a vraiment vu qu'il n'y avait aucune possibilité de repositionnement économique de cette ville-là, même s'il y a eu certaines tentatives infructueuses et tristes. C'est pour cette raison que Hydro-Québec a décidé de manière unilatérale de démanteler la ville en 1974. Il l'a démantelé complètement et puis bon nombre de maisons ont été portées à Forestville. Et puis le reste des installations ont été complètement rasées. Ça, c'est pour faire de sorte qu'il n'y ait pas de squattage, puisque si on vérifie un exemple de ville fantôme au Québec, c'est la ville de Schefferville qui a été squattée. Je ne sais pas si le terme est correct, mais des communautés autochtones ont pris possession des maisons qui ont été laissées là. Et puis, ils ont dû laisser ouvert les services dans cette ville-là. Ils ne voulaient pas que la même situation se passe à Labriville, dans ce coin perdu, ce no man's land. Et donc, ils ont démantelé la ville et rasé ce qui restait. Aujourd'hui, c'est encore possible d'y aller, puisque la ville a été construite vraiment juste à côté, aux abords de la centrale Bercimis 1, qui est encore en activité aujourd'hui. C'est une centrale un peu particulière, puisque c'est une centrale souterraine. Alors aujourd'hui, si on y va, on emprunte la route 385, et c'est à 150 km au nord de Forestville. Si jamais vous voulez y aller, c'est ce que je ne conseille pas nécessairement, vous devez absolument avoir un bon GPS et avoir des pneus de rechange, définitivement, puisque la route est terrible pour les pneus. Et puis, si jamais vous vous retrouvez en plein milieu de nulle part sans pneus, sachez qu'il y a très peu de chances que le cellulaire fonctionne et qu'il y a très peu de chances d'avoir une dépanneuse qui passe ou qui que ce soit d'autre qui passe, puisque la centrale Bercimis 1 est très peu visité par le personnel d'Hydro-Québec. C'est en bonne partie personne qui est là-bas. C'est vraiment un no man's land. On voit sur place encore de la façon que la ville a été divisée. On voit encore le territoire. Là, les rues divisent la végétation. Il y a un peu d'asphalte qui dépasse, mais c'est surtout de la rocaille qui a repris la place de l'asphalte et là où il y avait les maisons et les installations. Il reste encore une maison qui a été reprise pour utilisation comme camp de chasse et pêche. Donc, il y a quelques camps de chasse et pêche. Et puis, c'est seulement quelques petits morceaux d'asphalte. Et puis, c'est surtout la végétation qui est divisée par les anciennes rues qu'on peut voir. Mais sinon, il ne reste qu'un soupçon de cette ville. Il reste une faible rumeur d'outre-tombe, mais on pourrait difficilement soupçonner qu'il y a déjà eu une ville là. Il y a aussi la centrale Bercimis 1 qui est là, donc il y a quelques bâtiments d'équipement d'Hydro-Québec qui sont encore là, ce qui fait de sorte qu'on peut spotter l'endroit si on veut, excusez mon terme anglais. Et puis donc, c'est à partir de Forestville, à 150 km au nord. La route 385 existe toujours puisque la centrale Bercimis, qui est une centrale souterraine, doit être visité une fois de temps en temps par du personnel d'Hydro-Québec. Et puis sinon, on voit encore un tunnel minier qui date de l'époque de l'Abriville, qui existe encore. C'est un tunnel infini. Il fait très peur d'y pénétrer. C'est un tunnel qui avance, je ne sais pas pour combien de mètres, mais c'est très sombre et puis très peu rassurant, ce tunnel. Mais il est encore là, et puis c'est possible d'y accéder, quoique je crois que ce ne soit je crois pas que ce soit très très recommandable. Si vous y rendez, allez-y avec un quad ou un très bon 4x4. Et puis aujourd'hui, cette zone fait partie du territoire non organisé du lac Brochet, qui est considéré comme en haute côte nord. Donc, ça donne une bonne idée de ce qu'a l'air une ville après que la nature prenne le dessus. Pendant près de 40 ans, ça fait maintenant 40 ans que la nature pousse sur l'ancienne ville de l'Abriville, et je vous dirais qu'on voit presque plus rien. On ne voit presque plus rien, mais le fait qu'on puisse soupçonner qu'il y a eu une installation humaine de plusieurs années là-bas est assez pittoresque. Il y a une certaine sensation là-bas qui est non pas désolante, mais pittoresque. Il y a une certaine... Évidemment, je n'y ai jamais vécu, mais pour ceux qui ont vécu, qui retournent là-bas puis qui voient le regain de la nature sur leur ancienne ville, ça doit être tout un spectacle. C'était donc la chronique fantomatique pour cette installation. Et puis, j'espère que vous avez apprécié l'émission. C'est la fin de l'émission d'État de splendeur pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va voir un autre village fantôme du Québec. Et puis, c'est assez difficile puisque le Québec, contrairement à des zones comme le Yukon ou l'ouest des États-Unis ou l'Alaska, n'a pas connu de Gold Rush, de ruée vers l'or. Donc, il n'y a pas toutes sortes de villes de fortune qui ont été là et tout de suite abandonnées. Et aussi, le gouvernement du Québec a une politique de tout de suite raser les villages, ce qui fait de sorte que c'est très, très dur de répertorier les villages fantômes au Québec. Mais comme on a vu avec les autres installations de la chronique fantomatique, il y en a quand même quelques-uns qu'on a pu dénicher. Donc, il va y avoir ça et ainsi que bon nombre d'autres sujets intéressants dans les prochaines émissions. On a pu explorer brièvement le vin, l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac et puis l'Abriville aujourd'hui. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, vous pouvez toujours les laisser à info@commercial.etatdusplendeur.com. C'est etatsdesplendeur.com. Vous pouvez aussi en tout temps laisser des commentaires dans le blog d'etatdusplendeur.com. J'espère que vous avez apprécié ce périple audio et donc j'offre mes salutations aux auditeurs et je vous souhaite une bonne semaine. On va se laisser avec du Joy Division et la pièce These Days. Thank you.